Vous écoutez, on lit pour vous.
Mère d'une enfant handicapée, quand il faut se couper en deux, un texte de Dorothée Caratini paru le 29 septembre 2022 dans Urbania. Je ne veux pas que le handicap de l'une devienne un poids pour l'autre. N'importe quel parent, à peu près normalement constitué, qui a plusieurs enfants, espère ne pas en favoriser un ou une plus que l'autre. Accorder autant d'attention, d'amour, de soins, de bisous et de séances de rigolade à chacun ou chacune. Égalité. Sauf que ce n'est pas toujours aussi simple, et même si on les aime autant, parfois, il faut se démener plus pour l'un ou l'une que pour l'autre. Et quand on est mère monoparentale, on aimerait, à l'occasion, disposer d'un deuxième soi, d'un clone, d'une jumelle, pour être une mère suffisamment bonne pour chacun, chacune de ses enfants. J'ai deux filles, donc. L'aînée a 7 ans. La deuxième a 5 ans. Je les élève seule depuis qu'elles ont environ 2 ans et demi et 5 mois. Ma grande fille est née avec un handicap assez lourd. Elle est aveugle. Elle a une anophthalmie à gauche, absence de globe oculaire, et une microphthalmie à droite. Son œil n'a pas grandi. Il est atteint de malformations diverses. Le nerf optique est atrophié. Elle a une prothèse oculaire à droite, à gauche, une bille dans l'orbite qu'on ne voit pas. Sa paupière ne peut pas s'ouvrir. Elle ne voit rien. Pendant une certaine période, à peu près de ses 2 ans à ses 6 ans, elle a fait des crises d'épilepsie. Elle a aussi des troubles de l'attention, de la communication et un trouble du spectre autistique en cours de diagnostic. Ses déplacements à pied sont compliqués à cause de sa cécité. Elle a aussi un souci dentaire. Elle a donc un suivi médical assez costaud. Neuropédiatre, kinésiologue, orthophoniste, psychologue, pédopsychiatre, oculariste, plus les activités annexes, mais qui se déroulent sur son temps scolaire, locomotion, atelier avec des instructrices AVJ, activités de vie journalière, et aussi la danse, la musique, la musicothérapie à côté. Ma deuxième, elle, à part un goût assez prononcé pour les cascades, qui fait frémir mon petit cœur, qui vieillit trop vite, tombe rarement malade. Sauf quand elle a un bon 40 degrés de température, mais elle se remet vite. Comme sa sœur, elle bénéficie des suivis de base, bien entendu, le petit point santé annuel chez le généraliste ou le pédiatre, les vaccins, le dentiste. Elle fait aussi de la danse et de la musique. Elle aime voir des copines et des copains, aller écouter des concerts, aller à la piscine. Le fait est que je passe moins de temps avec elle, que je dois la laisser à la garderie ou avec une aide à domicile qui vient parfois nous aider quelques heures par semaine. Si j'étais croyante, je prierais pour elle. C'est une personne formidable. Ou à des amis, voire à de la famille, par exemple, lorsque sa grande sœur a été hospitalisée quelques jours. Et que certaines activités qu'elle aime faire sont rares, aller au cinéma, par exemple. Elle ne me reproche rien, elle n'en veut pas à sa sœur. Je ne reproche rien à sa sœur. C'est notre rythme, notre vie, je lui explique comme je peux. Elle est vive. Mais l'une comme l'autre sont accrochées à moi, comme un chat à sa pâtée, comme un vieux politicard à son mandat, comme mes rides à mon visage. Si l'une monte sur mes genoux, l'autre réclame la même chose. Et je ne peux pas avoir les deux enfants en même temps sur mes genoux, car elles se battent pour avoir les deux genoux, voyez-vous. Cette histoire de rendez-vous médicaux à foison me fait le même effet. Je ne peux pas accorder mes genoux à tout le monde en même temps. Est-ce que cela aura un effet dans le temps, à leur adolescence? Comment gérer les différences d'autonomie qui deviennent de plus en plus flagrantes avec le temps? Accessoirement, est-ce que moi aussi je pourrais avoir des genoux sur lesquels m'asseoir pour me consoler de tout cela? Je ne veux pas que le handicap de l'une devienne un poids, une tare, une honte ou une gêne pour l'autre. Cela ne devrait pas être la question. Oui, je suis parfois moins disponible pour l'une que pour l'autre, mais j'essaie de compenser en offrant d'autres moments de complicité qui nous appartiennent. La pédagogie, les explications, l'amour, est-ce que cela suffira? Est-ce que cette inégalité, qui n'en est pas une, il s'agit surtout d'une forme d'équité, sera comprise par ma petite fille? Mon aînée ne bénéficie pas du privilège de passer plus de temps avec moi. Elle se passerait facilement de tous ses rendez-vous, de se faire examiner par plein de spécialistes, de connaître les termes tensiomètre et stéthoscope assez bien pour les épeler correctement. Je dois essayer de capter les bons moments, de faire preuve d'une empathie multiple, d'être là pour les deux en même temps, de saisir l'instant présent et de le capturer pour le garder comme un petit trésor, de mettre de la joie là où je le peux et tout le temps de l'amour. Je ne sais pas si l'amour est suffisant, mais il fait beaucoup. C'était « Mère d'une enfant handicapée quand il faut se couper en deux », un texte de Dorothée Caratini paru le 29 septembre 2022 dans Urbania. De la vie au lit, performance au lit. Un texte de Caroline Monpetit, paru le 27 mars 2024 dans Le Devoir. Cela se passe au lit. Du matin au matin, dans un immobilisme imposé, un face-à-face intime et obligé avec la douleur, jour après jour. Pour bien des personnes handicapées, souffrant d'une maladie chronique ou visitées par la dépression ou les incapacités physiques, le lit, habité 24 heures sur 24, devient le centre d'un monde, mais aussi le lieu de la résistance et du repos. Des personnes y créent, y discutent, y font des plans, y guérissent, s'y apaisent, y dorment. De la vie au lit, c'est le titre qu'a donné la commissaire Sarah Eusaf à l'exposition qui, à la galerie de l'UQAM, met en lumière le travail de plusieurs personnes en situation de handicap. Le lit est trop souvent associé à la paresse et à l'oisiveté, rappelle l'œuvre « La paresse » de Félix Vallotton, reproduite dans l'exposition, agrandie sur une plaque d'acrylique noire dont on peut toucher le relief. On y découvre une femme, nue et allongée sur un lit, caressant un chat. Un texte en braille l'accompagne. On utilise souvent l'expression « être cloué au lit ». Mais c'est alité que Frida Kahlo, après un accident grave, a commencé à peindre ses autoportraits, que Marcel Proust a pondu les 3000 pages d'À la recherche du temps perdu. Plus près de nous, Marcel Ferron était maintenue à l'hôpital par une tuberculose osseuse lorsqu'elle a imaginé les grandes verrières qui ornent aujourd'hui des stations de métro de Montréal. Souvent associé symboliquement à la sexualité, le lit est aussi un lieu de douleur. Handicap sporadique. J'aimerais tout d'abord dire que cela a été étonnamment épuisant de rester allongé dans mon lit pendant 3 jours. Mon corps et mon cerveau sont complètement à plat, dit l'artiste britannique Liz Crow dans une vidéo qui accompagne l'exposition. Toujours dans cette vidéo, elle expose que sa vie est divisée en deux. Celle où elle mène une vie publique malgré ses difficultés et celle où elle passe son temps à récupérer. Dans son propos, la commissaire Sarah Eussaf insiste d'ailleurs sur la notion de diversité dans les handicaps qui sont parfois sporadiques. Les théories critiques du handicap ont un peu révolutionné la manière d'envisager la question. Avant, on mettait les personnes handicapées d'un côté et les personnes non handicapées de l'autre, explique-t-elle. Pourtant, il y a des personnes qui sont handicapées par période, puis qui ne le sont plus, et parfois même, elles le redeviennent de façon chronique. Les personnes qui ont des maladies chroniques vont pouvoir bien aller une journée sans avoir trop de douleurs et puis le lendemain avoir des douleurs. Les personnes qui font des dépressions aussi vont avoir un regain et vont pouvoir aller mieux pour peut-être, éventuellement, retomber dans une dépression, explique Mme Eussaf. Danser au lit. Ce que les artistes de l'exposition, des artistes qui embrassent tous des réalités et des identités diverses et intersectionnelles, présentent, ce sont les différentes façons de vivre au lit. Sarah Eussaf a découvert le travail d'Octavia Rose Engel, artiste A-genre, à travers un atelier de danse au lit. J'ai suivi un atelier de danse au lit avec Octavia et ça a été un moment de bonheur incroyable, raconte la commissaire. Je pouvais être en communion avec des gens du Royaume-Uni et de San Francisco. Cette performance nous est offerte en vidéo et un dispositif permet aux personnes qui n'entendent pas les paroles et la musique d'en percevoir les vibrations. Avec la dématérialisation de l'information, le lit peut désormais être un espace ouvert sur le monde. On y fait de la recherche, on y tient des réunions, on y discute avec des amis. Traditionnellement, la sphère privée, dont le lit est considérée comme extérieure à la vie politique, ce qui en exclut d'emblée les personnes alitées et les personnes ne pouvant pas quitter la maison. Or, envisager les espaces privés et personnels, physiques comme symboliques, de manière apolitique, a pour conséquence de ne jamais pouvoir considérer les personnes handicapées et malades ou les personnes à la maison comme des individus ayant des existences sociales et politiques, écrit Sarah Eussaf dans un texte intitulé « Matière à réflexion ». La commissaire s'est beaucoup inspirée des mouvements politiques pour les droits civiques des personnes handicapées qui ont émergé au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1960-1970. C'était « De la vie au lit, performance au lit », un texte de Caroline Monpetit, paru le 27 mars 2024 dans Le Devoir.
Théo Curin, premier athlète handisport au Musée Grévin. Un texte de Éric Serre, paru le 21 mars 2024 dans L'Humanité. Amputé des quatre membres, le jeune Mossellan, de 23 ans, est un homme pressé qui carbure au défi. Avide de partager ses expériences, celui qui est aussi acteur et chroniqueur possède aujourd'hui sa propre statue de cire. Le 7 mars, Yves Delhomeau, directeur général du Musée Grévin, et Romain Ambrault, membre de l'Académie Grévin, aurait très bien pu dire en accueillant l'athlète Théo Curin « Entre ici, Théo Curin ». après d'autres grands sportifs tels que Camille Lacour, Antoine Griezmann, Tony Parker, Teddy Riner, Clarisse Abgeninu ou encore le champion du monde 2023 de skateboard Aurélien Giraud, il est le premier athlète handisport à faire son entrée dans la célèbre institution au statut de cire. Le nageur handisport, parasport, multimédaillé, est un garçon non seulement prêt à tous les défis, mais aussi un homme multicarte, à la fois conférencier, comédien, mannequin, animateur sur France 3 et présentateur de sa propre émission « T'es au top » sur France 4. Toujours souriant, même dans les pires moments, il a joué le jeu sans sourciller. Théo s'est prêté aux différentes séances de création dans les ateliers de Grévin avec beaucoup d'amusement, de curiosité et de complicité avec les équipes. Photos, vidéos, captures d'images 3D, mesures, moulages, maquillage, cheveux, 6 mois ont été nécessaires pour réaliser ce nouveau personnage. Explique l'institution dans un communiqué. Un ado plutôt phobique de l'eau. Ému, il a découvert son double de cire, du sculpteur Stéphane Barrett, avec sa famille et ses amis. C'est une fierté immense d'avoir franchi les portes du musée Grévin. Partager ce moment avec ceux qui comptent le plus pour moi rend cette expérience encore plus spéciale. Né en 2000 à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, il a contracté à l'âge de 6 ans une méningite à méningocoque compliquée de type C qui a entraîné l'amputation de ses 4 membres. Sa rencontre avec Philippe Croison, amputé comme lui des 4 membres et athlète à record, il venait de réussir la traversée de la Manche à la nage, l'emmène vers les bassins alors qu'il est plutôt phobique de l'eau. La progression est fulgurante. À 13 ans, le pôle France Handisport de natation le prend sous son aile à Vichy. Il devient très vite l'un des grands espoirs français de la natation handisport. En 2015, au championnat du monde à Glasgow, il obtient son premier podium international. En 2016, aux Jeux olympiques paralympiques de Rio, le Benjamin de l'équipe de France, 16 ans, termine 4e sur le 200 mètres nage libre. Des vestiaires à Fort Boyard. En 2018, il fait partie de la commission des athlètes présidée par Martin Fourcade qui va travailler à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Jamais rassasié de défis, il participe à son premier triathlon avec un vélo spécialement préparé et termine l'Ironman des Sables d'Olonne en 6h53 minutes et 15 secondes. Rien ne semble vouloir arrêter ce garçon, sauf peut-être le COVID. Après le report d'un an des Jeux paralympiques de Tokyo et les changements de classification de handicap dans sa catégorie, il met un terme à sa quête paralympique pour se lancer dans une aventure pas comme les autres. La traversée à la nage du lac Titicaca au cœur de la cordillère des Andes. Un exploit de 122 km à la nage en relais avec 2 autres athlètes depuis la Bolivie jusqu'au Pérou, dans une eau à 10 degrés, à 3800 mètres d'altitude. Une gageure qui va durer 11 jours. Je ne suis pas un héros. Je suis même quelqu'un de privilégié parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves et des objectifs et qui, malheureusement, ne peuvent pas aller au bout parce qu'elles manquent d'argent, ne sont pas entourées. J'ai eu la chance d'avoir eu des personnes autour de moi, des sponsors, expliquera-t-il après son exploit. Il faut pourtant croire que cette panoplie de sportifs de haut niveau ne lui suffit pas. Depuis 2017, Théo Curin joue le rôle de Théo dans la série télévisée Vestiaire, diffusée sur France 2. En 2019, il devient l'égérie d'une marque de cosmétiques et, la même année, il est aussi chroniqueur dans le magazine de la santé. Durant les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, il devient consultant pour Eurosport lors des épreuves de nage en eau libre. Chroniqueur sur Virgin Radio, il multiplie les expériences et en 2022 participe en tant que candidat à Pékin Express sur M6 dans une saison spéciale célébrité intitulée « Duo de choc ». Il participe aussi à Fort Boyard sur France 2. Rien ne semble rebuter ce jeune homme de 23 ans qui croque la vie, multiplie les expériences et partage toutes ses passions, notamment avec les plus jeunes. C'était Théo Curin, premier athlète handisport au Musée Grévin. Un texte de Éric Serre, paru le 21 mars 2024 dans L'Humanité. Dans le REM, un protocole d'urgence aberrant. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina paru le 4 juin 2024 dans la presse. Le protocole d'urgence pour les personnes en situation de handicap est aberrant. Dans le réseau express métropolitain, REM dénonce un usager atteint de paralysie cérébrale qu'il a constaté à ses dépens lors d'une interruption du service. Ce qu'il faut savoir. Un usager en situation de handicap dénonce la faiblesse des plans d'urgence dans le REM. L'opérateur EXO admet qu'une erreur a été décelée dans l'application du plan de relève. CDPQ Infra se dit ouverte à apporter des correctifs au cours des prochaines semaines. Dans la réalité, il n'y a aucun plan d'urgence pour les personnes handicapées dans le REM. Pas du tout. Aucun. C'est aberrant comment le service pour les personnes à mobilité réduite est presque inexistant. C'est pourtant un gros système de transport. Il devrait y avoir des mesures claires en place, lance Christophe Rougy en entrevue avec la presse. Le 1er juin 2024, alors qu'il tentait de rentrer jusqu'à la station Brossard, d'où il prend un service de transport adapté jusqu'à son domicile de Saint-Mathias-sur-Richelieu, une panne prolongée est survenue vers 20 heures en raison d'un dégagement de fumée survenu près de la station Île-des-Sœurs. Des navettes d'autobus ont alors été déployées, comme le veut le protocole, entre Brossard et la gare centrale. Le hic, ces autobus ne sont pas du tout accessibles universellement malgré ce qu'ils prétendent, déplore M. Rougy. Il était rendu 21h30, ça faisait un bout que j'attendais quand un agent du REM m'a confirmé que les navettes n'étaient pas accessibles pour moi, en me disant que de toute façon, c'était bondé. Ils m'ont dit de commander un transport adapté, mais ça se réserve 24 heures à l'avance, relate le principal intéressé. Ultimement, le transporteur EXO, qui gère les services de transport adapté, a fait des pieds et des mains pour me trouver un chauffeur, dit Christophe. Je les en remercie, mais ce n'est pas normal et c'est inacceptable qu'on en soit là. Ça serait tout à fait possible et même nécessaire d'avoir des taxis en relève autour du REM, en temps de panne, pour les personnes en chaise roulante comme moi. Il y a des vies qui sont en jeu. Ce n'est pas la première fois que cet enjeu est soulevé sur le parcours du train léger. Depuis son inauguration en juillet 2023, de multiples bris d'ascenseurs ont suscité des inquiétudes, notamment du côté du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC. On a demandé au REM quels étaient leurs protocoles d'urgence en cas de pépin majeur et chaque fois, ils ont refusé de nous le dévoiler pour des raisons stratégiques, en assurant que tout était en place. Pour être honnête, de notre côté, on n'y a jamais cru, affirme le directeur général du RAPLIC, Steven Laperrière. En ce moment, les wagons sont accessibles, certes, mais tout le reste autour, pas vraiment, affirme-t-il. On est à la merci d'un ascenseur qui fait défaut ou de tout autre pépin technique qui provoque une panne. Et quand il y a des vies qui sont en jeu, c'est un gros problème. La clé, selon lui, serait de donner plus d'informations et d'être prêt à réagir à toute situation. Tant que ça ne sera pas véritablement le cas, on ne pourra pas dire que le REM est véritablement accessible pour tout le monde, insiste le DG, qui appelle CDPQ Infra à faire des simulations plus régulièrement. Sinon, le plan, il est tout simplement brouillon. Christophe Rougy abonde en ce sens. C'est une question de première nécessité pour nous. S'il y a un feu sur le REM, il se passe quoi? On doit pouvoir le savoir, dit le père de deux enfants qui est aussi propriétaire d'un magasin rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal. Une erreur dans l'application du plan de relève. Chez Exo, le porte-parole Jean-Maxime Saint-Hilaire concède qu'il semble y avoir eu une erreur dans l'application du plan de relève. Dans ce cas exceptionnel, les véhicules de transport adaptés d'Exo sont autorisés à traverser le pont pour aller chercher des usagers à l'une des stations du REM à Montréal. Nous avons apporté des correctifs auprès de nos équipes et de nos partenaires pour qu'une situation similaire ne se reproduise plus, soutient-il. Tous les employés d'Exo impliqués dans la situation ont cherché de bonne foi à aider l'usager à se rendre à destination, assure-t-il. La modification en temps réel des circuits des véhicules de transport adaptés présente plusieurs défis. Nos employés font de leur mieux pour accommoder les demandes de dernière minute en minimisant les conséquences sur les autres usagers, explique M. Saint-Hilaire. CDPQ Infra, de son côté, se dit conscient qu'une interruption de service peut s'avérer particulièrement complexe pour une personne à mobilité réduite. Le samedi 1er juin au soir, les navettes disponibles étaient adaptées pour les personnes à mobilité réduite comme prévu au plan de relève. Par contre, nous savons que l'accès au terminus du centre-ville où se trouvaient les navettes du plan de relève fait l'objet de discussions entre les partenaires associés au transport collectif pour en améliorer la signalétique et l'accessibilité, affirme le directeur adjoint aux relations médias, Francis Labbé, qui se dit ouvert à identifier des pistes de solutions et d'amélioration. C'était, dans le REM, un protocole d'urgence aberrant. Un texte d'Henri Wallet-Vézina paru le 4 juin 2024 dans la presse.